Radio Kapi.
Oh, Kapi.
L'essentiel de l'actualité est les faits qui marquent des reportages, tout pour mieux comprendre l'info. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Okapi, la radio de la paix. Je suis Gisèle Cage, je vous présente ce journal et voici les titres. Ebola en RDC, l'épidémie persiste, les bilans s'alourdit, plus de 890 cas confirmés, plus de 200 morts et un appel pressant de l'OMS à la responsabilité de tous pour sauver des vies. Alerte de la Cinco, la nation est en péril. Face à la guerre à l'Est et aux tensions constitutionnelles, les évêques appellent à la responsabilité et à la cohésion nationale. Paix en Ituri, Christian Vangazi, membre de l'Union des bâtisseurs de la paix en Afrique, se livre dans l'invité du jour sur l'importance du dialogue dans la prévention des conflits, la cohésion sociale et la réconciliation entre communautés en Ituri. Ebola fait toujours des ravages et les bilans fait froid dans les dos. Plus de 890 cas confirmés, 78 guérisons, mais déjà plus de 200 morts. Voilà le lourd bilan dressé par l'Organisation mondiale de la santé en RDC. L'annonce a été faite hier à Lubumbashi en marge de la DRC Mining Week par la représentante intérimaire de l'OMS, Anne Ansia. Face à cette situation préoccupante, elle lance un appel sans détour, respect strict de gestes barrières et vigilance maximale. Toute personne présentant des symptômes doit se rendre immédiatement dans une structure de santé pour une prise en charge rapide. Anne Ansia insiste, agir tôt, c'est sauver des vies. Elle est au micro de Paul Mounanga.
Pour le moment, nous avons un traitement symptomatique qui n'est pas un traitement spécifique et nous n'avons pas de vaccin. Ce que nous devons faire, c'est avoir les communautés qui comprennent la maladie, qui se protègent, qui respectent les gestes barrières. Si une personne présente un symptôme qui est compatible à la symptomatologie de la maladie à Boudibounjo, qu'elle vienne se présenter dans les centres de santé pour qu'on puisse la prendre en charge. Dans les centres de santé spécifiques qui ont été formés avec un personnel formé, avec des mesures de prévention et de contrôle des infections strictes. Nous avons 9 structures qui sont équipées, parce que sinon elle va aller transmettre l'infection dans une infrastructure de santé, infecter plus de personnel de santé et infecter d'autres patients qui sont là pour des problèmes et pour d'autres pathologies qui n'ont rien à voir avec la maladie Ebola et que nous devons bien sûr aussi prendre en charge. Donc il faut que ces personnes viennent dans les infrastructures de santé et qu'elles nous donnent toutes les personnes avec lesquelles elles ont été en contact pour qu'on puisse les approcher, leur dire comment se protéger et aussi isoler, nourrir et suivre ces personnes afin que vraiment nous puissions rompre la chaîne de transmission. Nous voyons pour le moment que le virus à Boudibounjo n'est pas trop létal. Nous avons une létalité de 23%.
Au cœur de cette crise d'Ebola, une lueur d'espoir se dessine pour les patients. À Bounia, 6 personnes guéries ont été présentées à une délégation gouvernementale conduite par le ministre de la Santé publique. Un signal encourageant qui porte désormais à 80 le nombre total des guérisons sur le 933 cas confirmés depuis la déclaration officielle de l'épidémie en Ituri. Les autorités sanitaires lancent un nouvel appel. Toute personne présentant des symptômes doit se rendre sans délai dans un centre de traitement. Une prise en charge précoce augmente considérablement les chances de survie. Les détails avec Isaac Remoyope.
Parmi les 6 personnes guéries figurent des infirmiers. Selon ces rescapés, les premiers symptômes de la maladie ressemblaient à ceux d'autres affections courantes, voire à un empoisonnement. Cette confusion pousse encore certains malades à recourir d'abord aux tradis praticiens avant d'être transférés tardivement vers les centres de traitement.
Oui, Ebola présente symptômes semblables à ceux de plusieurs maladies, souvent assimilés à un empoisonnement. Beaucoup de personnes se font d'abord soigner pour un prétendu poison pendant que la maladie progresse.
Déjà, plusieurs de ces rescapés reconnaissent avoir consommé des plantes médicinales ou des produits censés renforcer l'immunité avant de se rendre à l'hôpital, une pratique déconseillée par le ministre de la Santé publique.
Presque tous ont commencé d'abord par se traiter eux-mêmes avant d'aller au centre de santé. Cette dame, elle a commencé par prendre du tangawisi pendant une semaine, mais fort heureusement pour elle, on l'a guérie.
Face à la complexité de cette souche du virus Ebola, le ministre encourage toute personne présentant une malaise ou des symptômes suspects à se faire faire dépister sans délai afin de bénéficier d'une prise en charge précoce.
Les symptômes de cette maladie ne sont pas comme le reste d'Ebola, très impressionnants avec des hémorragies et qui nous obligent très rapidement de faire la part des choses, venez le plus vite possible au centre de soins.
Bunya, Isakre Moyope, Radio Kapi.
À Beni, un appel à dire non à la désinformation et à la violence contre les équipes des ripostes. Nous devons éviter toute intoxication et désinformation autour de la maladie à virus Ebola. Message lancé par le président de la jeunesse de la ville de Beni, au Nord Kivu. Cet appel fait suite à une attaque survenue vendredi dans le quartier Mabolio. Une équipe de ripostes dépêchée sur un cas suspect a été prise à partie. Bilan: plusieurs agents de santé blessés. Tout en condamnant fermement cet acte, le président de la jeunesse invite les jeunes à changer d'attitude, s'est mobilisé, soutenir les équipes sur le terrain et contribuer à freiner la propagation de l'épidémie dans la région. Moussa Karim est au micro de Marc Maroufimbo.
C'est un comportement que nous devons vraiment lutter contre, car bien même nous avons été victimes de cette maladie à la 10e épidémie et 13e, nous avions perdu les nôtres ici. Et pour cette 4e épisode dans notre ville, en tout cas nous devrons nous liguer à un seul homme, tout en accompagnant les personnels soignants. Et j'appelle encore tous les jeunes de la ville de Beni de se liguer derrière les personnels soignants de leurs entités, comme nous sommes en train aussi d'accompagner les services de sécurité pour lutter contre l'insécurité dans notre ville. De la même manière, nous devons aussi accompagner les équipes de la riposte. Cette violence juvénile ne nous servira à rien, mais plutôt ça va encore augmenter le nombre de cas confirmés et le nombre de décès dans notre ville. C'est une perte pour la ville de Beni. L'ennemi peut nous infiltrer pour nous intoxiquer tout en nous donnant de fausses informations sur cette maladie afin que la maladie puisse nous exterminer. Alors, nous avons le devoir d'éduquer nos proches.
Pendant ces temps, au sein de la communauté, les appels se multiplient pour exiger une enquête rapide. Objectif: retrouver les auteurs de cette attaque et les traduire en justice pour répondre de leurs actes. La nation est en péril. Alerte sans détour de la SINCO dans un communiqué publié ce samedi à Kinshasa à l'issue d'une assemblée plénière extraordinaire. Les évêques catholiques montent au créneau et livrent une mise en garde grave. En toile de fond, la guerre persistante dans l'est du pays, mais aussi les tensions grandissantes autour de la Constitution. Face à ces défis, la SINCO appelle à la responsabilité et à la préservation de l'unité nationale. Compte rendu de Jean Gando.
Dans un communiqué publié ce samedi à Kinshasa, la Conférence épiscopale nationale du Congo ne mâche pas ses mots. Les évêques décrivent un pays sous pression. La guerre continue dans la partie est du pays, malgré les accords de paix, groupes armés, massacres, populations déplacées et autres. Et pour elles, la situation reste dramatique. Sur le plan social, même constat. Quelques avancées, oui, routes, infrastructures, mais pour la majorité des Congolais, la précarité reste la règle. Mais le point le plus sensible, c'est la politique. À ces sujets, la SINCO s'inquiète de la montée des tensions autour d'un possible changement de la Constitution. Un débat mené, selon elle, dans un climat de peur, de pression et de répression des voix discordantes. Pour les évêques, le risque est clair. Une remise en cause du pacte républicain et une possible déstabilisation du pays. Ils mettent en garde contre tout passage en force. Les conséquences pourraient être graves, alerte-t-il. La SINCO appelle donc le président de la République à respecter son serment constitutionnel et invite la population à rester vigilante dans le calme et dans le respect des voies pacifiques de revendication. Message central: préserver la paix, l'unité et l'avenir de la République.
En Ituri, le ton s'est durci face à l'insécurité. Le gouverneur de province, le général Gabi Kasongo Mulumba, lance un appel ferme à toutes les communautés, en particulier aux groupes armés qui continuent de semer la terreur. Il les invite à s'impliquer activement dans la recherche de solutions durables pour amener la paix. Mais le message est clair: en cas de refus, il provient qu'il fera usage de tous les moyens légaux à sa disposition pour établir l'ordre et pacifier durablement l'Ituri. Une déclaration faite vendredi soir à Bunia au cours d'un point de presse. Le général Gabi Kasongo Mulumba est au micro d'Isaac Rimoyope.
Nous sommes encouragés par les premiers signaux en faveur de la paix émis par les différents acteurs sur terrain. Dans cette perspective, perspective, nous avons décidé d'ouvrir nos portes à toutes les composantes de la société itourienne, y compris à ceux qui troublent encore la quiétude de nos populations. Cela afin de les écouter, de chercher à travers un dialogue constructif des solutions durables aux problèmes de l'insécurité. Toutefois, si cette démarche de dialogue n'aboutit pas, le gouvernement provincial militaire prendra ses responsabilités et imposera la paix par les moyens coercitifs prévus par la loi et les textes internationaux. Je voudrais attirer l'attention de toute la population de l'Ituri. La paix est entre vos mains. Donnez-nous cette paix, préservons-la, transmettons-la aux générations futures.
Clap de fin pour la DRC Mining Week à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Après plusieurs jours d'échanges intenses, ce grand rendez-vous du secteur minier a réuni entreprises, opérateurs, sociétés civiles et experts venus de divers horizons. Objectif, réfléchir ensemble à l'avenir de l'industrie minière en RDC. Présent à ses assises, le système des Nations Unies a réaffirmé sa volonté d'accompagner le gouvernement congolais dans la transformation du secteur minier en un véritable levier de développement. Le point avec Jean Gandou.
Les Nations Unies ont indiqué dans un communiqué de presse publié ce 19 juin que l'objectif est de promouvoir une exploitation plus responsable fondée sur la transparence des meilleures conditions de travail et la formalisation de l'artisanat minier. Les Nations Unies insistent également sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources tout en favorisant l'inclusion économique de femmes et des jeunes. Autre priorité, intégrer les droits humains au cœur des politiques minières. Il s'agit notamment de systématiser les évaluations d'impact afin de prévenir les risques et renforcer la redevabilité des acteurs. L'ONU a aussi salué les progrès dans le recensement de la population, un outil clé pour orienter les politiques publiques et mieux planifier les développements, y compris dans les zones minières. Enfin, l'organisation réitère son engagement à travailler avec les autorités, le secteur privé et la société civile pour un secteur minier transparent, inclusif et créateur d'emplois décents au service du développement durable du pays.
À Mbujimayi au Kasaï oriental, la circulation vire au drame. Le commissaire supérieur adjoint en charge de la police des circulations routières appelle les usagers, en particulier les motocyclistes, à plus de responsabilités sur la voie publique. En ligne de mire, les cortèges des mariages et les cérémonies funéraires, souvent à l'origine des comportements à risque. Félix Mukuna tire la sonnette d'alarme après une série noire enregistrée le week-end dernier. Plus de 6 accidents causant la mort de 5 personnes dans la ville de Mbujimayi. Un appel pressant à la prudence pour éviter de nouveaux drames. Félix Mukuna est au micro d'Esther Ndalavina.
Tous les samedis et les dimanches, il y a une hausse des cas d'accidents de circulation. Je crois la fois passée, vous avez vu que même ceux qui étaient partis enterrés, à leur retour, on a déploré d'autres morts. Alors, tout s'arrange pour se passer le samedi. Nous avons les obsèques le samedi, nous avons différentes fêtes le samedi. Mais ce que nous demandons, surtout aux motards, le respect des règles de circulation. Ils ne sont pas exonérés des règles de circulation routière. Comment on peut se promener en file? Vous êtes en train d'aller enterrer, mais vous devez respecter certaines normes. Comment il faut conduire en file? Et généralement, ils ne respectent pas. Nous sommes là, la police, la grande mission, c'est de protéger des personnes et leurs biens. Nous sommes très mécontents lorsque nous apprenons qu'il y a des cas d'accident. Alors, je lance un cri à cette population. C'est cette population qui est l'avenir de demain. Ce sont ces motards qui sont des futurs présidents, les futurs ministres. Demain. Alors ça ne sert à rien de mettre sa vie en danger. Ils doivent aussi voir combien de passagers ils transportent lorsqu'ils sont appelés à accompagner les corps dans le cimetière. Généralement, nous les voyons à plus de 3 sur la même moto, 4 sur la moto, que des charges pour la mort. J'interpelle à la bonne conscience tous ces usagers de revenir dans le bon respect des normes routières, les règles de circulation routière.
À Mbanzangungu, dans la province du Congo central, la colère monte après un nouveau drame sur la RN1. Les étudiants de l'université Congo haussent le ton. Ils réclament des mesures urgentes pour renforcer la sécurité sur la route nationale numéro 1. En cause, la mort de deux de leurs camarades fauchés dans un accident de circulation le 13 juin dernier après qu'un véhicule de l'armée a percuté la moto qui les transportait. Pour exprimer leur indignation, ils ont organisé jeudi 18 juin une marche pacifique, une mobilisation qui s'est soldée par la remise d'un mémorandum à l'administrateur du territoire adjoint. Une action forte dans un contexte marqué par la recrudescence des cas d'accidents mortels sur cet axe routier. Les détails avec Élise Kavira.
C'est en scandant des chants de colère que les étudiants ont marché jusqu'à l'administration du territoire pour y déposer leur mémorandum. Ils réclament des mesures urgentes afin d'améliorer la sécurité autour du campus de l'Université Congo. Parmi leurs revendications figurent notamment l'ouverture d'une route secondaire via Ntonankulu, la mise en circulation du bus destiné aux étudiants, ainsi que l'installation des dodanes et de panneaux de signalisation sur la route nationale numéro 1. Pour sa part, l'administrateur adjoint du territoire, Salomon Mundekoko, reconnaît la pertinence de ces revendications. Il précise toutefois que le territoire ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour réaliser ces travaux et assure que le dossier sera transmis aux autorités provinciales. Pour rappel, en février dernier, le recteur de l'Université Congo, le professeur Germain Kounamaba, avait déjà interpellé les autorités sur la dangerosité de la route nationale numéro 1 à Louvaka, qu'il qualifie de point noir en raison du manque de signalisation et des ralentisseurs. Matadi, Elis Kavira, Radio Kapi.
À Kinshasa, l'eau potable reste un luxe pour certains habitants. À Kimbondo, dans la commune de Mongafula, des quartiers entiers vivent depuis plus de 10 ans au rythme de pénurie. En cause, une desserte très irrégulière de la régie des eaux qui pousse les populations à se tourner vers le forage privé pour s'approvisionner. Un quotidien difficile que nous fait découvrir Gloriane Lepeya dans ce reportage.
À Kimbondo, le manque d'eau potable complique le quotidien des habitants depuis plusieurs années. Pour s'approvisionner, la majorité d'entre eux, bidons et autres récipients à la main, se dirigent vers les endroits où l'eau de forage est vendue. Cette jeune dame lance un cri de détresse.
Il peut arriver dans une année, l'eau coule qu'une seule fois. Donc nous souffrons énormément, surtout à la saison sèche. Nous demandons aux autorités de nous aider à mettre de l'eau à notre disposition.
Pour certaines personnes, recourir à l'eau de forage n'est pas du tout mauvais, mais comment se rassurer de la qualité de l'eau qui est fournie à la population? Les gestionnaires de forage indiquent pour leur part que des opérations d'entretien sont effectuées régulièrement afin de garantir la qualité de l'eau distribuée. Le directeur régional de la régie des eaux Kinshasa-Ouest, Raymond Matundu, explique les causes de cette pénurie d'eau.
Pour donner un peu d'eau à la population, nous procédons par rationnement. Mais quand on a des problèmes d'ensablement, s'il n'y a pas un fonctionnement continu, ça affecte nos amis qui sont dans la partie haute.
Les habitants de Kimbondo continuent de dépendre des forages avec l'espoir de voir un jour l'eau couler à nouveau de façon régulière dans les robinets de la régie des eaux.
Actualité internationale. Téhéran hausse le ton. Le commandant central de l'armée iranienne a annoncé ce samedi 20 juin la fermeture du détroit stratégique d'Ormuz, l'un des principaux points de passage du commerce mondial de pétrole. Cette décision intervient en réaction aux récentes frappes israéliennes dans le sud du Liban que l'Iran considère comme une violation du cessez-le-feu conclu avec les États-Unis. Selon les autorités iraniennes, cette mesure vise à répondre à ce qu'elles qualifient des nouvelles provocations et à défendre leurs intérêts dans la région. La trêve aura été de courte durée. La fermeture du détroit d'Ormuz, déjà utilisé par Téhéran comme levier stratégique par le passé, fait craindre une escalade des tensions et de perturbations majeures sur les marchés internationaux, en particulier dans les secteurs énergétiques.
L'invité.
Dialoguer pour prévenir les conflits et construire la paix. Le 10 juin, Le monde célèbre la journée internationale pour le dialogue entre les civilisations. Une journée qui met en lumière l'importance de l'écoute, du respect, de différences et de la compréhension mutuelle pour favoriser la paix. Mais concrètement sur le terrain, notamment en Ituri, quel rôle joue le dialogue dans la consolidation de la paix et comment renforcer la réconciliation entre les communautés? Des questions au cœur de notre échange avec notre invité Christian Vanganzi, membre de l'Union des bâtisseurs de la paix en Afrique. Il s'entretient avec Jean-Claude Lokidile.
Christian Vanganzi, bonjour. Quel sens cette journée internationale pour le dialogue entre les civilisations revêt-elle pour une province comme l'Ituri, marquée depuis plusieurs années par des conflits armés et parfois des tensions communautaires?
Je voudrais ici rappeler que l'expérience de l'Ituri montre que la violence ou la recherche de la paix par force a connu des limites. Et donc pour dire que l'Ituri comme un espace de conflictualité n'a pas réussi jusqu'aujourd'hui à acquérir, à rétablir la paix par la violence. Voilà donc, moi je pense que cette journée internationale dédiée au dialogue entre les civilisations a un rôle et un sens dans les expériences ou les vécus des populations ituriennes.
Dans quelle mesure le dialogue entre les communautés peut-il contribuer à prévenir ou à résoudre les conflits qui persistent dans certaines parties de la province de l'Ituri?
Moi, je pense c'est le dialogue qui est au centre de tous les mécanismes qu'on peut mettre à place pour pouvoir réhabiliter les relations, rapprocher les communautés qui vivaient jadis dans un climat de méfiance, je vais dire.
Mais malgré les initiatives de médiation déjà menées, pourquoi certaines méfiances et divisions continuent-elles d'exister entre les communautés?
Il y a un rôle important que l'État doit jouer. Au fait, l'État devra prendre les choses à main, prendre ses responsabilités pour avoir une gouvernance judiciaire très forte. Et là, c'est pour réguler justement la société, régir la société avec des règles précises, un cadre de droits qui est au-dessus de la mêlée.
Christian Vanganzi, plusieurs territoires de l'Ituri accueillent encore des milliers de personnes déplacées. Le dialogue peut-il encore faciliter la réconciliation et le retour durable de ces populations dans les villages d'origine?
Je dirais que les déplacés internes bénéficieraient des résolutions des dialogues si et seulement si ces résolutions-là sont respectées. Parce que, bien évidemment, comme je l'ai signifié, la question des personnes vulnérables, dont les déplacés internes, les retournés et les autres, sont prises en compte dans plusieurs accords, mais hélas, il ne reste que, n'est-ce pas, la question épineuse reste le respect ou l'application scrupuleuse de ces résolutions issues de ces dialogues.
Pour terminer, quel message adresseriez-vous aux communautés de l'Ituri à l'occasion de cette journée de 10 juin consacrée au dialogue et à la compréhension mutuelle?
La violence ne peut pas construire la paix à l'Ituri. Moi encore en RDC, je ne crois pas même en Afrique ou à travers le monde. Toutes les nations qui entrent en guerre pour des raisons qu'elles connaissent les unes les autres finissent par se mettre autour des tables et dialoguer. Et donc, je vais dire à toutes les filles et à tous les fils de l'Ituri que la violence ou la force ne peut pas nous amener sur le chemin de la paix. Et je nous souhaite tous une très bonne fête des journées internationales des dialogues.
Christian Vangazi, je vous dis merci.
C'était Christian Vangazi, membre de l'Union des bâtisseurs de la paix en Afrique, en entretien avec Jean-Claude Lokidile. C'est la fin de cette grande édition de l'information de ce samedi. Merci d'avoir passé ces moments avec nous. Merci également de votre fidélité à Radio Okapi, la radio de la paix. Pour suivre l'actualité en continu, rendez-vous sur www.radiookapi.net et sur toutes nos plateformes digitales. Très belle soirée à toutes et à tous. Prenez soin de vous et excellent week-end.